Père, merci pour ta présence au milieu de nous. Et Seigneur, on veut accueillir Claude et Julia aussi. Seigneur, que tu puisses les bénir ce matin. Merci pour la joie que nous avons de les avoir encore avec nous. Merci pour le cœur qu'ils ont. Et Seigneur, qu'ils puissent transmettre ce que tu as déposé sur leur cœur ce matin. Nous les accueillons et merci Seigneur pour ta présence. Amen. Soyez bénis. On est heureux de vous accueillir.
Voilà, merci. Voilà, c'est un plaisir de se retrouver. Il n'y a pas si longtemps qu'on était là, il semble.
Hey, vous êtes beau là. Maintenant, j'enlève les lunettes, un peu moins. Hein. Ça fait plaisir de vous retrouver. Et dans ces périodes, avant la fin de l'année, on commence à concentrer davantage sur la famille. Et nous, on a joué le papy-mamie ce week-end, mais...
Ministère papy mamie, c'est très important.
Mais je crois que c'est le temps où on arrive à vraiment tendre les mains vers les membres de nos familles, ceux qui sont proches et ceux qui sont loin. Et qu'est-ce que c'est important qu'on a les justes mots et les gestes pour que l'amour de Dieu soit reçu dans les cœurs et ramolli parfois des pierres un peu endurcies. C'est le moment. Donc je me réjouis toujours à la fin de l'année pour ça.
Ouais. Voilà, la Bible dit que Dieu envoie sa parole et il nous guérit. D'où l'importance de proclamer cette parole, que ce soit par les chants, ce soit par la prédication. Nous, on écrit aussi des bouquins, ok, diverses manières pour pouvoir répandre cette parole qui guérit. Alors, parfois, on se dit, pour que cette parole soit efficace, il va falloir que je puisse, pendant une semaine, participer à un séminaire de 3 réunions par jour. Et si on le peut, tant mieux. Mais quelqu'un a dit à Jésus, dis seulement une parole. Donc, on va encourager chaque fois lors de nos réunions les gens à se mettre à l'écoute de ce que Dieu a pour eux personnellement. Une parole qui ne sera pas bonne pour ton voisin, mais qui sera bonne pour toi. Et peut-être tu ne te rappelleras pas des 3/4 des choses qui sont dites ce matin, mais si tu reçois cette parole qui vient du cœur de Dieu pour ton cœur à toi, elle va automatiquement engendrer un miracle. Dieu est le Dieu des miracles, donc ne perdons pas notre matinée.
Alors voilà, qui est prêt pour recevoir une parole ce matin? Moi, je suis le premier. Hein?
Et d'ailleurs, alors je ne vais pas passer du temps à présenter les livres, là, mais on va faire une chose, on va en offrir quelques-uns. Hein? Vous savez, notre frère, il a parlé de semences et de récoltes, c'est une loi spirituelle. Et je ne prospère pas par rapport à ce que vous me donnez, je prospère par rapport à ce que je donne. Et Dieu doit rester ma source. Et ça, c'est très important. Parfois, même des ministères itinérants, ils sont là. Ah, est-ce que l'offrande va être importante ou quoi? On n'est pas là pour l'offrande. On est là pour voir ce que nous, on peut donner. Amen. Et Dieu reste notre source. De toute façon, il s'occupe bien de nous. Alléluia. La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Waouh. Moi, ça m'encourage à assumer qui je suis. Peut-être, vous vous dites, il a pas l'air d'un pasteur très classique. Ce matin, ce gars-là, c'est le meilleur compliment que vous puissiez me faire. J'assume qui je suis. Et c'est important que vous assumiez qui vous êtes. À qui est-ce que je peux l'offrir? Voilà, ce sont des brochures volantes. Il faut les attraper. Chrétiens sous influence. Sous quelles influences? Eh bien, on se rend compte que les chrétiens ne sont pas toujours sous la bonne influence. Et moi, le premier, je dois veiller à ne pas être repris par certaines influences du passé. À qui je peux l'offrir? Voilà, hop là. Loi ou pas loi, c'est vite fait de vouloir être ramené aujourd'hui. Il y a des gens, c'est leur message, sous la loi de la première alliance, alors que nous avons une loi bien meilleure, la loi de Christ. Alléluia, qui se résume à aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain. Ah, je n'ai pas dit que je l'offrais. Si, si. Hop, voilà, on est bon. Ouh. Briser le pouvoir des malédictions.
Étrange.
Voilà, ça y est. Prophétique, vous avez dit prophétique. Merci Seigneur, Dieu veut un peuple prophétique aujourd'hui plus que jamais maintenant. Le diable il le sait, c'est pour ça qu'il a créé tellement de confusion dans ce domaine-là. Et on se retrouve souvent à avoir plus de faux prophètes dans nos milieux évangéliques que de vrais prophètes. C'est de cela dont parle la brochure. Oh là là. Bon, de toute façon, après, on prie pour les malades. Hein.
Pour les aveugles.
Les 7 volontés de Dieu. Est-ce que Dieu il a plusieurs volontés? Ben ouais. Sa volonté, elle peut changer en fonction de nos choix. On sait que Dieu veut de bonnes choses. Vous croyez que Dieu veut de bonnes choses pour nous? Oui, vous désirez quelque chose? Maintenant, si je décide d'attaquer une banque demain, la volonté de Dieu sera que j'aille en prison. Amen. Alléluia. Peut-être qu'on peut chanter quelque chose?
Je sais ce que tu es en train de penser.
Oui, oui, voilà. On a écrit un chant, un chant il n'y a pas longtemps. C'est un chant de proclamation. Il n'est pas totalement fini, donc on va l'essayer sur vous. D'accord? Mais une proclamation qui est très importante aujourd'hui plus que jamais. Toute arme forgée contre nous sera sans effet. Ok? Allez, on va là. Je peux t'emprunter la guitare?
Peut-être okay. On peut se lever. Alléluia. J'ai appris une chose dans la vie. C'est une chose de lire la parole de Dieu. C'est un autre de l'assimiler, de le croire. Et c'est un autre de le verbaliser ou de le chanter ou même de le proclamer. Et ces dernières années ou deux, j'ai vraiment appris à proclamer la parole de Dieu, de mémoriser certains passages de la parole de Dieu pour que je sois imprégnée avec cette parole. Et dans les moments nécessaires, eh bien, elle sort et je vais pouvoir changer les choses simplement parce que ce n'est pas simplement moi qui crois, mais je le proclame pour que l'ennemi l'entende et que l'ambiance change et que j'ai acquis ces vérités pour moi. Alors, hop. Peut-être il faut mettre le volume, non? Non? Si? Si? Tu veux? Ça sort? Ça sort? Bon.
Fort dans le retour. Allô? Allô? Ne partez pas. Voilà, c'est bon.
Un, deux.
Alors voilà comment ça fait. J'ai mis les. C'est moi qui l'ai composé, mais je vais les.
Oh, c'est trop bien.
Ça me rappelle bien de toutes les paroles.
Okay. On y va.
Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Quel est le salut qui leur vient du ciel, qui leur vient du ciel.
Alors, on va le refaire, mais on a besoin de vous entendre.
Est-ce que quelqu'un peut se mettre au, comment on appelle ça déjà?
Le 40. Il est parti? Monsieur 40? C'est pas grave, tiens.
Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est le salut qui leur vient du ciel, qui leur vient du ciel. Là, vous pouvez vous tourner vers quelqu'un et lui dire « Tu te l'enfonges contre toi et sera sans effet. »
Amen.
« Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. »
Vous le croyez vraiment?
C'est l'héritage que Dieu donne à ses serviteurs. C'est la promesse qui leur vient du Seigneur,
qui leur vient du Seigneur.
Cette promesse, je me l'approprie.
Amen.
Pour moi et pour mes enfants.
Est-ce que c'est la vérité?
Je proclame que le s'accomplit. Pour les petits et les grands. Toute arme forgée contre moi sera sans effet.
Je vous entends pas, absolument pas.
Toute langue qui s'élèvera sera condamnée.
c'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est le salut qui leur vient du ciel, qui leur vient du ciel, qui leur vient du ciel.
Tout homme forgé contre toi,
tout homme forgé contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. C'est l'héritage que tu donnes à ses serviteurs. C'est la promesse
qui leur vient du Seigneur,
qui leur vient du Seigneur.
Alors là, proclamons ensemble cette vérité sur tous ceux qui nous sont chers. Qu'elle les garde dans leur destinée, sur les routes, dans les terres.
Toute arme,
toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée.
C'est vrai.
Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur vient du ciel, qui leur vient du ciel.
Ok, ce matin, moi j'ai décidé que je vais me positionner par rapport à ce que l'ennemi essaie de faire dans ma vie. Je vais me positionner par rapport à mes enfants, mes parents, mes frères, mes sœurs, que ce soit tout ce que le Seigneur m'a confié dans la vie, vous comprenez? Et que si je ne me positionne pas, eh bien très rapidement je vais me trouver en train de reculer sous la pression des mensonges que l'ennemi va essayer de lever contre moi. Et c'est pourquoi que c'est important, pas seulement individuellement, mais comme un corps, comme une église, que vous proclamez des choses ensemble pour que l'ennemi entende que vous êtes décidés ensemble. On va le refaire. Quand tu veux. Hein?
Toute arme forgée contre moi sera sans effet.
Vraiment, proclame-le.
Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel.
C'est pour nous.
C'est le salut qui me vient du ciel, qui me vient du ciel, qui me vient du ciel.
Je proclame cette promesse.
Ok.
La Bible dit,
ça me suffit.
Face à l'adversité,
ben ouais,
je confesse l'autorité. Que tous les plans de Satan soient réduits à néant et que la puissance du Saint-Esprit envahisse nos vies. Toute arme forgée contre moi sera sans effet.
Oh, ça me plaît ça.
Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur vient du ciel, qui leur vient du ciel,
qui leur vient du ciel, qui leur vient du ciel, qui leur vient du ciel.
Et on termine, toute arme forgée contre toi,
toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée.
Ah, c'est décidé.
C'est l'héritage que Dieu donne à ses serviteurs. C'est la promesse qui leur vient du Seigneur, qui leur vient du Seigneur.
Ouh. Ouh. Bon, c'était pas mal. La prochaine fois, hein, vous le connaîtrez tous par cœur, d'accord? Le matin, devant le miroir, tu t'aimes faux, j'ai contre toi. Parfois, il y a personne pour nous relever. Parfois, il y a personne pour nous entourer. Parfois, on se trouve dans des situations où on est impressionné. Et c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on puisse parler à nous-mêmes, qu'on puisse prendre position et de parler pour ce qui nous appartient. Et on le proclame pour eux. Parce que nous avons une puissance et une autorité pour ce qu'on aime. Tout ce que le Seigneur nous a donné, une attache dans la vie. Je ne parle que la tâche, pas que de la tâche du sang, mais la tâche du cœur. Okay? Le Seigneur nous a donné des personnes sur lesquelles on doit veiller. Ou les personnes sur notre chemin, parfois on ne les a même pas choisies. Et Dieu a dit, c'est là, je veux que tu t'en occupes. Ça vous est arrivé? Et donc, on peut proclamer ces choses, pas simplement pour nous. Il faut commencer ici, bien sûr. Mais aussi de proclamer. Ce n'est pas souvent qu'on gueule devant le miroir le matin. Ça changera un petit peu. Hein?
On ne dit pas
ça...
qu'on gueule, on dit qu'on crie.
On crie. On dit à voix haute. Mais pour que ça soit vraiment entendu, que la maison est secouée par ce qu'on proclame. Alléluia.
Voilà, avec Julia, à travers nos voyages, là, on revient de l'île de la Réunion, on était pendant 3 semaines.
On n'a pas eu le temps de se bronzer, hein?
Oui.
Non, on a fait beaucoup de réunions.
Il fait plus frais à Grenoble, c'est sûr. Je disais qu'il y a plusieurs messages qu'on aime partager avec le peuple de Dieu. Et chaque année, il y a un message particulier qui émerge de cet ensemble de messages. Et cette année, on a vraiment à cœur de prêcher à droite et à gauche sur Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je crois que c'est quelque chose qui est important pour chaque chrétien de réaliser. C'est la prise de connaissance des vérités que nous révèle la parole de Dieu, on va y revenir, qui nous permet d'évoluer, d'être transformé. Alors moi, je crois à la délivrance, merci Seigneur, mais je ne pense pas qu'un chrétien, il doit passer toute sa vie à se faire délivrer, à chercher à délivrer les autres. Parce qu'il doit marcher selon ce principe, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Plus vous prenez connaissance des vérités de la parole de Dieu, plus il y a des choses qui se règlent même toutes seules dans votre vie, et même il y a des démons qui vous oppressent, qui sont obligés de cesser de vous oppresser sans que vous ayez besoin de crier dessus pendant une heure. D'ailleurs, souvent, ce n'est pas sur les démons qu'on crie, c'est sur les gens. On leur fait plus peur qu'autre chose. Alors, je dis, il y a des moments hein, pour pratiquer ce qu'on peut appeler la délivrance. Mais je crois que dans nos milieux évangéliques, on est tombé dans beaucoup de déséquilibre dans ce domaine-là. Et moi, je n'arrête pas de croiser des délivrés qui ont toujours les mêmes problèmes qu'avant. Donc, je ne sais pas de quoi ils ont été délivrés. Ou s'ils ont été délivrés, ils n'ont pas su garder leur victoire parce qu'ils n'ont pas compris que c'est la prise de connaissance de la vérité qui nous permet d'être affranchis. Vous savez, c'est comme un singe. Tiens, un singe dans ton jardin, il saute de branche en branche et tu cours après, tu as un bâton et tu tapes sur tel arbre, il saute dans l'autre arbre, tu tapes sur tel arbre. À la fin de la journée, tu es épuisé. Ah, il a quitté le jardin. Et puis tu te réveilles le lendemain matin, il est revenu. Ça, c'est la vie de délivrance de beaucoup d'enfants de Dieu. Mais coupe les branches. Coupe les branches des arbres.
C'est pas très écolo, ça.
Claude. Ils n'auront plus à quoi s'accrocher, est-ce que vous comprenez? Je dirais même que ça ne les intéresse plus, les démons, de venir dans un jardin où il n'y a plus de branches auxquelles s'accrocher. Enfin, pour moi, la vie chrétienne, elle ne doit pas être compliquée. Et je crois que parfois, elle est devenue très compliquée. 20 points pour être guéri et délivré. Tu arrives au troisième point, tu te rappelles plus que le premier point, il disait. Je crois que nous sommes dans un temps où il faut simplifier les choses pour les enfants de Dieu. Plus de résultats pour moins de paroles. Ce n'est pas un cri qui sort du cœur de beaucoup d'enfants de Dieu. Plus de résultats, donc plus d'onction finalement, plus de puissance pour bouger les jougs, pour moins de paroles, de blablabla et d'enseignements compliqués. Tu voulais dire quelque chose? Ah, ça va. Donc, ce verset, c'est un véritable cheval de bataille pour nous, et pour le ministère d'enseignement que le Seigneur nous a confié. parce que d'après lui, la prise de connaissance de la vérité est la clé qui nous amène à l'affranchissement. Donc, première réflexion, si c'est la vérité qui a franchi, ce sont donc des mensonges qui asservissent. Le contraire des vérités, ce sont les mensonges, on est bien d'accord ? Donc, une bonne partie de ma vie chrétienne va consister à remplacer les mensonges que j'ai cru pendant des années par les vérités dont je prends connaissance. Si je ne le fais pas, je peux passer par tous les programmes de délivrance, de guérison et de sozo à n'en plus finir. Les problèmes ne se régleront pas. Chaque fois que vous êtes attaqué, ou presque chaque fois, que vous êtes découragé, que vous êtes complexé par un mensonge. Un combat que beaucoup d'enfants de Dieu ont, et qu'on a tous eu à certains moments de notre vie chrétienne, c'est la culpabilité. Mais on ne peut rester dans la culpabilité que tant qu'on croit qu'on n'est pas suffisamment aimé de Dieu, qu'on n'est pas suffisamment considéré de Dieu, tant qu'on ne prend pas connaissance de la merveilleuse créature que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Qui est né de nouveau ici ? Voilà. Donc, pas tous, bon, c'est pas grave. J'espère que d'ici la fin de la réunion. Ok. Vous avez été recréé en Jésus-Christ. Dieu n'a jamais recréé, permettez-moi l'expression, de pauvre type en Jésus-Christ. Il n'a que recréé de merveilleuses créatures. Alors, il peut nous arriver de nous comporter encore comme des pauvres types, ok ? N'est-ce pas ? Mais pauvre type, ce n'est pas mon identité. Ce n'est plus mon identité. Mon identité, c'est merveilleuse créature. Et Dieu veut nous rappeler qui nous sommes. Parce que lorsque nous oublions qui nous sommes, eh bien, toutes ces puissances de ténèbres reprennent leurs droits. Et c'est ce qu'on trouve déjà alors que la nouvelle naissance n'était pas encore enseignée et pas encore manifestée, parce que Jésus n'était pas encore venu, avec Gédéon. Gédéon passe par une période où il n'y a rien qui marche dans sa vie. Vous connaissez ces périodes ? Il y a des connaisseurs ici ? Il fait des plantations, les Madianites passent derrière, ils arrachent tout. Et Gédéon, il a envie de dire, Dieu, tu m'as oublié là. Et le Seigneur, il lui envoie un ange. Et la première chose que l'ange il lui dit, c'est pas « Salut à toi, pauvre type !»« Salut à toi, vaillant héros, selon les traductions, vaillant guerrier. » Parce que le Seigneur, il sait que tant que Gédéon, il ne se rappelle pas qui il est, il ne va pas pouvoir s'en sortir. Parce qu'en général, quand on ne sait pas qui on se comporte comme qui on n'est pas. Salut à toi, vaillant héros. Je crois qu'au départ, il doit se retourner. Tu parles à qui, Seigneur ? Parce que lui, il a plutôt l'impression qu'il est un vaillant zéro. Et il y a des moments où on a l'impression qu'on est des vaillants zéro, mais ça ne change pas notre identité d'enfant de Dieu. Si déjà ça ne changeait pas l'identité de Gédéon à une époque où les hommes qui embrassaient la foi en Dieu ne pouvaient pas naître de nouveau parce que Christ n'était pas encore venu, à combien plus forte raison ça ne change pas l'identité de ceux qui sont authentiquement nés de nouveau en Jésus-Christ. Alors on refait le test. Qui est authentiquement né de nouveau en Jésus-Christ ? Donc vous avez besoin de certaines prédications qui vous rappellent qui vous êtes. Vous avez besoin d'un conjoint qui vous rappelle qui vous êtes. Amen. Il y a trop de gens qui veulent nous rappeler qui nous étions. Entourez-vous de gens qui vous rappellent qui vous êtes devenus.
C'est vrai que quand on grandit, on écoute nos parents, la façon qu'ils nous parlent, et ça forge un peu notre image de nous-mêmes. Et on peut être bien, on peut avoir été bien entouré ou mal entouré, mais à partir du moment que on donne notre cœur à Christ, il nous amène de cette réalité où on marchait quand même dans les ténèbres, il nous amène dans la lumière. Et l'ennemi, il veut nous garder dans les ténèbres. Et comment il va faire ça ? C'est la confusion. Et à partir du moment où on ne le voit pas, la crainte s'installe. Ça vous est arrivé certainement dans la vie. Je ne sais pas quel choix je dois faire. Si simplement je savais la volonté de Dieu, si simplement j'avais une vision claire, nette, je ne vois plus, je ne suis pas certaine. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Et c'est là où l'être humain, notre intelligence, Dieu merci, nous a accordé tous une intelligence, certains le cultivent davantage que d'autres, mais on a tous un potentiel et on devrait à ce moment-là faire des bons choix. Mais l'ennemi, s'il arrive à nous faire croire des mensonges, s'il arrive à nous faire croire qu'on ne sait pas comment Dieu va agir, si on il nous arrive à faire croire que les promesses de Dieu sont... Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que Dieu, il a vraiment dit ça? Est-ce que cette promesse-là était vraiment destinée à toi? Est-ce que tu es sûr de ce que Dieu dit? Est-ce que tu es sûr de qui tu es? Est-ce que tu es sûr que les autres, ils vous aiment vraiment? Et à partir de là, eh bien, ils gagnent du terrain et nous, on recule. Et ce que Dieu, il veut, c'est de nous sortir de la confusion. Et à un moment donné, avec Claude, il y a à peu près un an, on a commencé à vraiment prier. Seigneur, aide-nous de changer de perspective des choses. Parce que tout dépend de la façon qu'on voit des problèmes. Et je me rappelle, j'ai parlé avec quelqu'un, peut-être une année, et elle marchait avec le Seigneur, mais elle était toujours hontée par quelque chose qu'elle avait fait dans le passé, un mauvais choix. Et pour elle, c'était une histoire d'amour qui n'a pas marché, etc. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais tu sais que cet incident, il n'aura que l'impact qu'on décide de leur donner dans notre vie. On ne va que amener avec nous ce qu'on décide d'amener avec nous. Et que nous avons la possibilité de lâcher ce qui est derrière nous et de marcher dans une nouveauté de vie. Dieu nous appelle de... être des enfants de lumière. Moi, je suis... Parfois, les gens ils disent, mais elle est un peu allumée, celle-là. Eh bien, c'est un compliment. J'ai dit, je le prends. Je préfère être éclairée, un peu allumée, mais de marcher dans une nouveauté de vie, d'avoir la foi à l'intérieur de moi qui me donne une perspective où je peux garder l'espoir et la joie de vivre, malgré tout ce qui est derrière moi. Je ne peux pas ignorer ou faire semblant que ces choses ne sont pas arrivées.
Est-ce que nous avons des allumés ici?
Il y en a plusieurs. Mais je sais que je ne veux pas vivre non plus dans le déni. Ah non, ça c'était, voilà, ce n'est pas arrivé. Si, c'est arrivé. La chose, c'est qu'on est détaché émotionnellement de ces choses-là parce que Christ nous a renouvelé notre cœur. Sinon, il ne nous aurait pas dit « Gardez ton cœur plus que toute autre chose. » Tout se passe dans les émotions, dans nos décisions, mais le cœur, il doit battre selon le cœur de Dieu. Si on est à proximité avec Dieu, on va entendre son battement de cœur et on peut caser notre cœur avec lui et dire « Ouais, ça va y aller. » Même s'il y a des tas de mensonges autour de moi, je ne fais pas cas. Et je le prends pas pour moi. Il peut me dire ce qu'il veut, mais c'est pas moi ça. Moi, j'ai évolué, j'ai changé, j'ai monté sur la montagne, j'ai changé ma perspective et maintenant je suis suffisamment haut où je vois la lumière qui m'éclaire. J'ai marché dans les ténèbres, j'ai passé par le vallée de l'ombre, mais j'ai fait que de passer.
On ne construit pas une maison dedans.
Exactement, Claude. On ne construit pas dans la vallée. Ma maison, elle est en hauteur. Elle est sur le roc. Elle est sur le rocher. Elle n'est pas en bas, auprès des eaux, où il y a du sable. Dieu, il a changé tellement ma perspective des choses. Et j'aimerais vraiment vous dire ce matin que peut-être certains d'entre vous, c'était quelque chose que j'ai ressenti tout à l'heure pendant la louange. J'aimerais vous dire que votre passé n'aura que l'impact que vous décidez de l'avoir sur vous. Et il y a certaines choses, vous pouvez les lâcher de l'est. Et je sais que chaque fois que je lâchais quelque chose, j'ai appris davantage que des moments où je saisis quelque chose. De lâcher nous permettre d'être à nouveau allégé. Donc, posez vos fardeaux, posez le passé, posez vos histoires, posez le qu'en dira-t-on, posez vos péchés passés. Tout ça, c'est le Seigneur qui s'en occupe. Aujourd'hui, vous êtes debout, vous croyez dans le Seigneur, il habite à l'intérieur de vous, il n'y a personne ni rien qui va changer mon attachement à Dieu et la joie de vivre. Ouais. Même les épreuves de mes enfants, ça n'enlèvera pas ma joie. Et la meilleure chose que je peux faire pour eux, c'est de c'est d'avancer. C'est de rester dans la lumière. Et chaque fois que je sens que cette lumière commence à se coucher et que je me trouve à nouveau à l'ombre, eh bien, je sors de cette ombre pour retrouver la lumière. Parce que je n'ai pas honte de qui je suis, ni de qui j'étais, parce que c'est mon histoire. Mais je marche dans la lumière. Et tant que je suis dans la lumière, eh bien, je serai un meilleur, un meilleur soutien pour mes bien-aimés qui sont encore dans les ténèbres, parce qu'ils voient que j'avance.
Non, il faut avoir du recul. Alors, avoir du recul, ça ne veut pas dire qu'on méprise ce que vivent ou ce que font les autres, mais on est obligé d'avoir du recul, ok ? Sinon, on va se retrouver à porter les fardeaux de tous les gens. Il y a une différence entre se mettre en position d'aider les gens et porter leur fardeau à leur place. Est-ce que vous voyez la différence ? Alors, c'est bon pour les enfants, c'est bon pour les petits-enfants. Parce que si vous mettez à porter tous ces fardeaux, plus vous avez d'enfants et plus vous avez de petits-enfants, vous imaginez la grosseur du fardeau. Donc, vous devez prendre du recul. Et comme le disait Julia, le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est en nous-mêmes. Quand on va bien, on va pouvoir aider les autres. Quand on coule avec les autres...
On finit dans le trou avec eux.
Ouais. Et on ne peut ni s'aider soi-même, ni aider les autres. Okay. Alors, deuxième réflexion. C'était pas mal, ça, hein ?
Oui, c'était pas mal. On continue. Allez.
Je crois que ça passe. Hein.
Oui, ça va, ils écoutent.
Deuxième réflexion, si c'est la vérité qui affranchisse, c'est quoi la vérité ? Où est-ce qu'on trouve la vérité ? Alors, c'est marrant parce que, bon, je ne sais pas si c'est marrant, mais au début, on voit que lorsque Jésus est devant Pilate, qui lui pose cette question, à un moment donné, mais qu'est-ce que la vérité ? Au début, il lui répondait. Puis quand Pilate arrive à cette question-là, Jésus ne lui répond plus. Et je me suis demandé, mais pourquoi d'un coup il se tait, Jésus il ne répond plus, il n'essaie plus de se justifier. Et j'ai compris que c'est important, mes amis, de ne pas se sentir toujours obligé de répondre aux gens et de se justifier dans la vie. Beaucoup de gens vous posent des questions, mais par condescendance, en vous prenant de haut, justifie-toi, Jean, pourquoi ceci, pourquoi cela ? Eh, va faire un tour, reviens avec plus d'humilité, on te répondra. On n'est pas obligé, parfois on se sent obligé de répondre aux gens, de répondre à ceux qui nous accusent, et on n'est pas obligé du tout. On est libre en Jésus-Christ. Amen. Tu n'es pas obligé de répondre à ta femme si elle te prend de haut, à ton mari s'il te prend de haut, les chéris, on verra ça demain quand on sera plus calmes tous les deux. Là, on est dans l'accusation. Ça ne sert à rien d'essayer de se donner des explications qui souvent vont faire monter la mayonnaise au lieu de la faire descendre. Est-ce que vous me suivez ? Parfois, et ça, c'est important. C'est quelque chose que j'essaie de...
Parfois, il faut mieux rien dire que de trop dire. Et donc, il faut rester maître de ce qui sort de notre bouche. Vous avez votre propre arbitre. Donc, décide préalablement quand quelque chose vous arrive... Qui vous dit quoi, à quoi et à qui. Et ensuite, le reste, eh ben, on n'est pas obligé d'être, de se justifier chaque fois qu'on soit accusé.
Alors, Jésus n'a pas répondu à Pilate, qu'est-ce que la vérité ? Maintenant, la parole de Dieu dans Jean 17, 17, il répond, ta parole est la vérité. Waouh !
Voilà un bon repère.
Alors, c'est vrai qu'on appelle la Bible la parole de Dieu en général, ok ? Mais il faut comprendre, est-ce que quelqu'un peut me passer une Bible ? Voilà, passez-moi votre Bible, je vous promets, je vous la rends. Ça, c'est un livre. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça devient la parole de Dieu quand je comprends ce que Dieu me dit dedans. Et tant que je ne comprends pas ce que Dieu me dit, c'est un livre même qui peut devenir dangereux parce que lorsque le diable est venu tenter Jésus-Christ, le Verbe fait chair, je crois que je l'avais mentionné la dernière fois, ça, il n'est pas venu le tenter avec le manuel du parfait petit sataniste. Il est venu le tenter avec des versets bibliques. Donc si ce n'est pas gêné avec Jésus, le Verbe fait chair, il ne va pas se gêner avec toi. C'est pour ça que tout à l'heure, parmi les brochures que j'ai données, il y a une qui s'appelle « La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie ». Tu sais, dans la lettre, tu vas trouver les coupes de cheveux que tu dois avoir. tu vas trouver le voile que tu dois porter. D'ailleurs, ce matin, j'en vois pas beaucoup de voiles sur la tête. Hein ? Dans la lettre qui tue, c'est-à-dire sortie de contexte, tu peux bâtir n'importe quelle doctrine. Et c'est pour ça que les chrétiens sont capables de s'entretuer entre eux en disant « Mais c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit !» Donc, ce livre, il devient la parole de Dieu que quand tu comprends ce que Dieu te dit. Et tous, on sait que ça nous prend du temps à bien comprendre ce que Dieu nous dit. Et parfois, on a oppressé les autres, moi le premier, dans certaines périodes de notre vie, en utilisant des versets bibliques.
Et la meilleure manière qu'on peut interpréter la parole de Dieu, c'est de connaître l'auteur.
Le cœur de l'auteur.
Si on connaît celui qui a écrit, je ne sais pas, il y a ceux qui aiment lire des romans ou des histoires écrites. Ben, si vous connaissez celui qui a écrit, vous pouvez interpréter ce qui est écrit beaucoup mieux. Moi, je lis la parole de Dieu, mais je cherche d'abord à connaître, d'avoir cette intimité avec le Seigneur. Et ensuite, eh bien, même s'il y a quelque chose que je ne comprends pas, je dis, mais moi, je connais Dieu, je connais le cœur de Dieu. Donc, je vais l'interpréter avec un regard d'un enfant qui n'est peut-être pas encore l'âge de pouvoir comprendre tout ce qui est dans le manuel. Hein? Donc, Dieu, il veut qu'on puisse chercher sa face pour que la parole de Dieu devienne un rhéma. Alléluia. Et c'est ça ce qu'on cherche, c'est ça ce qu'on désire.
Une parole vivante. Une parole vivante. C'est ce dont on a besoin. Alors, c'est facile à reconnaître. Vous venez, vous écoutez une prédication, vous ressortez allégé. Bon point. Parfois, on vient, on écoute une prédication, on ressort, on est encore plus alourdi. La parole de Dieu ne nous a pas été donnée pour nous alourdir. Nous avons une vocation chacun. Waouh, avec ma femme, on a une vocation. C'est d'être des libérateurs. Amen. Alors, ce n'est pas pour nous libérer dans une liberté de faire n'importe quoi, on est bien d'accord. Mais c'est important, à un moment donné, dans sa vie chrétienne, de se lever le matin, d'être bien dans sa tête et d'être bien dans sa peau. Et là, on peut affronter n'importe quoi, on peut affronter les obstacles. Et la maturité, c'est quoi ? Ben, c'est d'assumer ses erreurs, sa responsabilité, alléluia, sans toujours accuser les autres, parce que de toute façon, ce n'est pas ça, à nos propres yeux, qui change notre identité. Il faut être sûr de notre identité. Je crois que plusieurs d'entre vous, vous avez assisté à un séminaire, c'était sur le cœur de père, c'est ça ? Voilà. Mais c'est ça l'idée, de comprendre qu'on est des fils et des filles. Qui a des enfants ici ? Voilà. Est-ce qu'ils sont tous parfaits ? Voilà. Et puis,
oui, tous. Savez,
Julia le dit souvent, vous savez, avoir plusieurs enfants, c'est comme lire plusieurs romans.
Oui, en même temps.
Mais un jour, tu te lèves, il y en a un, il est dans la joie, l'autre, il est dans la dépression. C'est pour ça que tu ne peux pas tout porter, tu es obligé d'avoir du recul, de relativiser. Et c'est pareil pour une église, pour un pasteur. OK ? Donc on a besoin d'avoir du recul. Troisième réflexion, si c'est la vérité qui a franchi, la question se pose dans les domaines où on est encore asservi.
Qu'est-ce que tu vas dire ?
Quels sont les mensonges que je crois encore ?
Exact.
C'est une bonne question, ça, à se poser. Moi, je me la pose régulièrement, mais qu'est-ce que je dois être encore en train de croire qui est faux pour que ce problème ait encore cet impact dans ma vie ? C'est une bonne question à se poser, ça. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Comme c'est le mensonge qui a servi, dans les domaines où je suis encore asservi, quels sont les mensonges que je crois encore, que je vais isoler ? Amen ? La Bible nous dit dans les Proverbes que la parole de Dieu, elle est comme un médicament. Vous connaissez ce passage qui dit « Médite, mon fils, la parole, ça sera la santé pour tous tes membres ». Là, le mot traduit souvent par « santé ». En hébreu, il peut être traduit aussi par « médicament ». La parole de Dieu, on peut se faire des ordonnances avec.
Ah, je me fais régulièrement des ordonnances de la parole de Dieu.
dans le domaine où je me sens attaqué, où je crois facilement des mensonges, par exemple, qui me dévaluent par rapport à mon identité, parce qu'étant peut-être enfant, on m'a rabaissé trop souvent, bien, je vais me faire une ordonnance. Je prends tous les versets qui proclament le contraire de ces mensonges que j'ai cru pendant des années, qui parlent de la valeur que j'ai pour le Seigneur, et je me balade partout avec eux, jusqu'à ce qu'ils fassent partie intégrale de mon être. Et là, je deviens verset biblique ambulant. Et là, j'ai plus besoin qu'on me répète ces versets parce que je suis devenu ce verset, quoi.
Mais moi, je les écris sur des post-it et je les colle sur le frigo. Voilà, ça c'est ma verset ou ça c'est mes versets pour le moment. Et il faut que je m'imprègne avec ça. Chaque matin, avec le jus d'orange, hop, un petit...
Surtout celui qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », tu sais.
Non, je n'ai pas écrit.
C'est important, celui-là, ouais. Tu le mets sur le frigo,
c'est bizarre,
là, tous
c'est
les
bizarre.
Matins.
Non, ce n'est pas celle que j'ai retenue. Mais on s'est entendu. Hein.
Là aussi, il faut la bonne interprétation. La tentation était trop...
Oui,
alors,
ça.
Il y a un principe qu'il faut à tout prix comprendre... Tel un homme pense, tel il est. Alors, c'est ce que la Bible affirme sous une forme ou une autre, selon la traduction. Darby dit, comme il a pensé, tel il est. Second, car il est comme les pensées de son âme. Cela signifie qu'une personne devient selon ce qu'elle pense, et plus précisément, elle finit par modeler sa vie par rapport aux pensées qu'elle entretient. Ah, c'est pas parce que vous avez pensé de travers, ça nous arrive à tous quelque chose, que vous avez eu une peur ou une inquiétude, que ça y est, c'est fichu. Non, ça sera toujours. Mais quand vous développez la peur, quand vous développez l'inquiétude, quand ça fait partie de vous, c'est une porte ouverte à Satan. Parce que tel un homme pense, tel il est.
Et quand on a certains versets bibliques vraiment à cœur, il devient part entière. On part de notre identité. Et ensuite, on commence à comprendre quel est mon message. Est-ce que mon message de la parole de Dieu, c'est un message de condamnation? Est-ce que je vais être connu comme un chrétien qui critique? Un chrétien qui... Ou est-ce que, quel est mon message? Ça, c'est une bonne question que vous pouvez poser. Dans votre vie, après, si par exemple, on va récapituler votre existence par une phrase ou deux, ou par un verset ou deux, quel verset ça serait? On n'a pas tous le même message, et c'est pourquoi qu'on est obligé de travailler ensemble. Même, on est obligé de travailler ensemble. Non, on a la grâce de pouvoir travailler ensemble, mais le complémentarité,
voilà,
c'est mieux. Hein? Mais le complémentarité, c'est quelque chose que Dieu y cherche. On n'a pas besoin d'être couvrir tous les domaines et d'être le ministère bouche-trou à l'église où on sait faire tout, on a toujours une réponse à tout. Parfois, on peut dire, mais là, c'est plutôt mon domaine. Parfois, les gens, ils me posent une question. Je dis, mais il faut mieux demander à mon mari, celle-là. Il serait mieux répondre que moi parce que c'est son spécialité. Et d'autres fois, Claudine, ah, il faut mieux voir Julia parce qu'elle a la plus d'expérience que moi dans ce domaine. Et ce n'est pas péjoratif de pouvoir dire, ah, c'est peut-être pas totalement mon point fort, mais le Seigneur, il veut, avec l'âge surtout, que ça...
Ton
âge ou mon âge
ensemble,
ça fait beaucoup. Mais avec l'âge, j'ai remarqué qu'on a moins de temps à perdre à semer à tout va ou d'essayer plein de choses constamment, mais de devenir un peu des spécialistes dans certains domaines. Et ensuite, j'ai dit, ah, voilà, allez voir sœur Intel, parce qu'elle, elle sait vraiment beaucoup par rapport à ça. Donc, quel est notre message et qu'est-ce qui se dégage de nous, plus que les versets... voilà le verset du jour, mais qu'est-ce que les gens disent de nous? Ah, celle-là, elle exerce la bienveillance. Elle est vraiment, elle a un cœur d'amour. L'autre, c'est plus peut-être le discernement ou la bienveillance. De savoir qui nous sommes et de se positionner en Christ, de cultiver notre identité en Christ, ça nous permet d'avoir une relation... avec plus d'assurance, parce qu'on avance dans un sillon qui nous ressemble Et ensuite, ça nous permet d'être plus efficaces dans le domaine.
Donc, tel un homme pense.
Tel un homme pense.
Tel il est.
Tel il est.
Et on essaye souvent d'être victorieux en gardant une mentalité de vaincu. Et ça ne peut pas marcher. On essaye d'être guéri en gardant une mentalité de malade. D'être prospère en gardant une mentalité de pauvre. Waouh! D'être de bon conjoint en gardant une mentalité d'égoïste. Ça ne peut pas.
Elle est bien celle-là.
Ça
ne
peut pas jouer. Ouais. Ça de pardonner les autres en gardant une mentalité de victime. C'est toujours la faute des autres, ok? De les bénir en gardant des pensées de rancœur, voire de haine. Donc ça s'appelle la dualité. Mais tel un homme pense, tel il est. Donc tel un homme pense, tel il parle aussi. Et il y a une puissance dans nos paroles, vous le savez? Waouh! Donc tout à l'heure, on a dit, il y a la guérison dans ce lieu. Waouh! Si vous êtes malade, parlez la guérison. Allez, commencez à évoluer en guéri. C'est une parole que le Seigneur m'a donnée un jour. J'étais dans une situation un peu complexe et je repriais. Et d'un coup, j'ai entendu le Saint-Esprit très clairement me poser cette question, me demandant de réaliser qui j'étais. Est-ce que tu es un malade ou tu es un guéri? Est-ce que je suis un malade ou je suis un guéri? Est-ce que je suis un oppressé ou je suis un délivré? Qui a été délivré par Jésus-Christ? Voilà. Dans notre identité, c'est délivré. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des oppressions qui sont actives dans notre vie et des maladies qui sont actives dans notre vie. Mais c'est un peu comme si la porte de la prison a été ouverte, mais Jésus n'est pas venu nous tirer par le col pour nous faire sortir de la prison. Maintenant, il va falloir sortir de la prison. Lui, il a ouvert la porte. Et je sors de la prison en commençant à voir, croire, confesser par la foi ce que je suis. Et on revient toujours au problème, façon de parler, de l'identité. Waouh! Combien de merveilleuses créatures nous avons ce matin dans ce lieu? Combien de guéris nous avons? Combien de... Ok, le diable, il attend que de voir qu'on confesse et qu'on entretient la pensée de ce qu'on n'est plus. Waouh! Moi, je suis devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. J'assume la nouvelle créature que je suis. Je ne suis pas parfait, mais lorsque le diable vient me trouver, il me dit, tu te prends pour qui? Mais je me prends pour qui je suis. Si je suis devenu une nouvelle créature, il y a donc quelque chose de très bon en moi, et ce n'est pas de l'orgueil que de le reconnaître. Lorsque Dieu dit dans la parole qu'il est merveilleux, et il ne ment pas. Dieu, il ne fait pas une crise d'orgueil. Amen. Donc, si vous êtes des enfants de Dieu, vous ne pouvez être que des gens merveilleux. C'est Éphésiens 2:10 qui nous dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le mot ouvrage, là, ça m'a frappé lorsque j'ai découvert ça. En grec, il signifie poème et œuvre d'art. Dans le regard que Dieu a sur nous, ce n'est pas un regard de condescendant, ce n'est pas un regard méprisant. Il voit qu'on est en route, mais pour lui, on est une œuvre d'art. Pour certains, c'est encore de l'art abstrait. C'est du Picasso. Il va falloir que ça prenne forme, mais c'est en cours. Et d'ailleurs, le Picasso, ça se vend très cher. Hein, le gars, il prend un œuf, il le jette sur la toile. Hein. Il balance deux coups de pinceau, allez, 300 000 euros. Alors même si tu as encore de l'art abstrait, tu as de la valeur. C'est important. On revient toujours à l'identité. Alors, on va terminer par là. Je ne suis pas ce qu'on m'a toujours dit, peut-être, que je suis. Je ne suis pas ce que je sens que je suis. Et là, l'importance de prendre du recul par rapport à nos émotions. Oui, il ne faut pas réfréner les émotions, comme on nous l'a enseigné parfois dans certains milieux. Non, non, c'est bien les émotions. Simplement, c'est bien d'avoir des émotions. Il ne faut pas que nos émotions nous aient. Vous voyez? Parce que là, quand tu es confronté à l'adversité, tu commences à paniquer et là, tes émotions se retournent contre toi. Donc, il y a certaines émotions qu'il faut laisser sortir de nous, et ça participe à notre guérison, à notre délivrance. Et puis, il y en a d'autres, il faut leur dire, là, vous allez trop loin et vous voulez me mener trop loin. OK ? Je ne suis pas ce qu'on m'a toujours dit ou je sens que je suis ce que la Bible dit que je suis. Et elle dit que je suis une nouvelle créature, la justice de Dieu en Christ, un fils, une fille. Waouh ! Alors, je ne sais pas si je l'avais dit la dernière fois, il faut que je fasse attention comment je traite cette personne.
Ah, voilà, maintenant que ça commence.
Parce que ce n'est pas seulement ma femme, ouais. C'est la fille chérie de Papa Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Et je crois que si plus de maris chrétiens réalisaient ces choses-là, il y a certaines choses qu'on ne se permettrait plus de dire. Mais ça marche dans l'autre sens. Hein ? Tu es un fils chéri de Papa Dieu, t'inquiète pas. Okay ? Et c'est important de réaliser ça. Et puis les gens qui sont là, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord avec eux, ce sont des fils chéris de Papa Dieu. Parce que même nos enfants, quand ils ne prennent pas les choix qu'on aurait voulu qu'ils prennent, ils restent nos enfants chéris. On est d'accord ?
Et quand on regarde nos enfants, quand ils étaient petits, on les voyait déjà qu'ils étaient merveilleux. Hein? On avait un regard prophétique sur eux. On savait que Dieu il avait une destinée pour eux et qu'ils allaient devenir... Notre désir, c'est qu'ils deviennent des hommes et des femmes faits, qu'ils deviennent bien dans leur peau, bien dans leur tête. Et pour cela, eh bien, il faut le prononcer, il faut leur dire. Régulièrement, c'est comme avec le mari, hein. Il faut l'entretenir, hein. Il faut le rassurer, de chérie, t'es le meilleur.
C'est un homme, c'est plus fragile que ce qu'on pense. Hein.
Et on a
n'est-ce pas, messieurs?
On a besoin de être rassuré. Alléluia. Donc moi, j'aimerais bien vous rassurer ce matin que le Seigneur, il est content, ok? Il vous aime, il voit votre cœur. Et qu'il n'y a rien qui se passe dans votre vie qu'il ne voit pas. Et pourtant, il croit en vous et de tout le potentiel qu'il a passé à l'intérieur de vous. Et qu'il attend simplement que vous soyez en paix à l'intérieur. Parce que c'est difficile d'avancer quand on est en conflit. Et c'est là où l'ennemi essaie de nous garder dans cette confusion. Et j'aimerais vous dire que, eh bien, juste comme l'apôtre Paul m'a donné, avant qu'il était l'apôtre, justement, eh bien, l'écaille, ils ont tombé de ses yeux parce qu'il était aveugle. Il avait du zèle, il croyait avoir une vie, voilà, qu'il était dans le juste, mais en fait, il avait tout faux. Et quand le Seigneur nous révèle des choses que ce n'est pas tout à fait comme ça, ben, ce n'est pas grave. Lâche. Hein? Laisse ces écailles, n'essaie pas de les recoller, hein. Il faut vraiment laisser la lumière entrer là où le Seigneur révèle les choses. Quels sont les domaines à l'intérieur de nous? Quels sont les mensonges qu'on croit encore? Parfois, on peut être super dans des tas de domaines dans notre vie et il y a encore des petits endroits où quand il me pique, alors je me démarre à quart de tour. Voilà. Il y a encore des choses, on a besoin d'être travaillé encore. Donc Seigneur, laisse, travaille en moi. Ce n'est pas grave. Je disais à un de mes petits-fils l'autre jour, je lui ai dit, je ne sais pas, il ne m'écoute pas. Mais je lui disais, tu sais en fait que le bonheur que tu vas avoir dans ta vie va dépendre de ta capacité de s'adapter. De s'adapter à des changements, celles que tu choisis et celles qu'on ne choisit pas. Il y a des changements qui viennent, mais on voulait ça justement, mais après quand on y est, on n'est pas très sûr, le diable arrive à nous faire douter encore même. Mais il faut qu'on soit sûr de ce que Dieu nous donne. Et ensuite, il y a des choix qu'on ne choisit pas. Et ces choses-là, mais quelle est notre capacité de s'adapter? Parce que Dieu, il nous donne quelque chose de formidable.
Alléluia.
C'est qu'il est avec nous. Et qu'il nous accompagne dans chaque changement de vie. Et les changements de saison, mon mari et moi, on en a eu plusieurs. Okay? Et quand on est dans ces moments flottement, eh bien, c'est un peu déstabilisant, mais ce n'est pas grave. rien n'est grave en fait. Tant que Jésus il est sur son trône, parfois je disais dans ma vie, je dis même quand c'est grave, c'est pas grave. Ce qui serait grave, c'est que je doute de moi ou je doute de l'amour que Dieu a pour moi. Mais tant que Dieu est avec moi, eh bien, il aura un demain. Et notre travail, notre appel de nous tous, c'est d'avancer et de comprendre la parole de Dieu. Il est là pour nous libérer, pour nous asservir.
Amen.
Ne crois pas les mensonges que le diable essaie de nous faire croire. Vous êtes totalement compétent, totalement béni d'avance. Il suffit de rester dans les choses que Dieu il a mis sur votre chemin. N'essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et en fait, l'onction, vous savez quoi? L'onction, il est le plus pur. Vous voulez vivre dans l'onction? Vous voulez avoir l'onction de Dieu sur vous? Alors, soyez vous-même. Parce que l'onction, il est plus fort quand vous êtes vrai. À partir du moment qu'on essaie de sortir de notre appel, de notre nous, de notre identité, de nos différences même, eh bien, c'est là où cette onction peut commencer à tarir.
Assumer qui vous êtes.
Alors, il faut assumer vraiment qui vous êtes et de laisser Dieu vous amener de saison en saison, de chapitre en chapitre, et de dire, voilà, lâcher de lest et avancer léger. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Et comme ça, on peut garder la passion intacte, la joie intacte.
Garder la passion intacte, ça, c'est important. Hein?
Ah oui, merci.
C'est bon.
Et de garder la lumière qui vient du ciel. Nous sommes des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. N'oublie pas qui vous êtes.
Amen.
Au nom de Jésus. Amen.
Alors, notre appel, on ne va pas faire avancer les gens, on ne va pas lever les fauteuils, bien qu'il y a des moments, c'est très bien de le faire, les chaises. Mais on va juste libérer la parole de Dieu. Et ceux qui ont besoin peut-être d'une délivrance, une guérison, vous allez juste vous lever à votre place, là où vous êtes. Et on va juste libérer la parole de Dieu à partir de Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et vous allez ressortir en allant prier une prière de déclaration sur vos vies. Et vous allez ressortir, s'il y a besoin de rectifier vos pensées vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis du futur qui est devant vous, vous allez juste accepter de le faire et vous allez voir Dieu se manifester, parce qu'on se rend compte avec mon épouse que la parole, elle a suffisamment de puissance lorsqu'on la comprend pour qu'on reparte avec et elle produit son effet dans les jours qui suivent, si ce n'est pas le jour même. Et chaque fois que je prêche ou nous prêchons ce message, nous sommes les premiers à toucher du doigt ce que je suis en train de dire. Dans l'autre jour, j'ai prêché. On a prêché le message. J'avais besoin que quelque chose se rectifie dans la semaine. Le lendemain, important. Quand je me suis levé dans le lit, d'un coup, j'étais tenté par le souci de ce point particulier. Alors, j'ai refusé le souci. J'ai dit, je refuse le souci. Et puis, je regarde mon téléphone. Il y avait quelqu'un qui avait essayé de m'avoir pendant que je dormais. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et donc, je l'ai rappelé une demi-heure après, le problème avait déjà été réglé pendant mon sommeil. Et chaque fois, l'autre jour, on a prêché le message en soirée, à l'île de la Réunion, on est rentré en voiture, une heure après, on avait un miracle fantastique. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, je pars du principe que si je prêche quelque chose, je dois être le premier à bénéficier, sinon ça n'a pas de valeur. Si ça ne marche pas pour moi, pourquoi je vous refilerai ma camelote? Il y a des gens qui prêchent des messages qui ne vivent pas. Okay? Donc, on l'expérimente. Quelqu'un peut-être dira ce matin, ah, moi, je suis venu, j'aurais voulu l'imposition des mains. Il y a des moments, c'est très bien, mais tu n'as pas besoin ce matin. Il y a assez de paroles, ça fait une heure qu'on parle. Ah, moi, j'aurais voulu une onction d'huile. C'est très bien, l'onction d'huile, mais tu n'as pas besoin d'onction d'huile ce matin. Sinon, on aurait parlé moins, on t'aurait fait l'onction d'huile. C'est bon aussi. Mais là, il y a assez de paroles, on est d'accord?
On saisit la parole pour nous.
Et alors, on le dit souvent avec humour, je crois qu'on l'avait déjà dit ici, là aussi. Nous, on part toujours du principe qu'on saisit, comme ça, on ne perd jamais aucune réunion. Si les gens, ils repartent, ils n'ont rien saisi. Il y en a deux qui ont saisi, c'est nous. Dans notre prédication, elle marche pour nous. Ouais. OK? Mais je sais que Dieu veut qu'elle marche pour vous aussi.
Alors.
Dernier petit exemple, lorsqu'on était à Madagascar, il y a un bon moment, on était en train de prêcher. Ça remonte à plusieurs années. Et puis, il y avait une personne dans la pièce à côté, on ne savait pas, elle était sur un lit, infirme, ok. C'était même la femme du chef de village, et elle a compris ce qui était dit. Elle n'a pas dit, bon, il faut que j'attende la fin de la réunion, qu'il prie pour moi, qu'il m'impose les mains. Pendant qu'on était en train de prêcher, elle a pris son lit et elle est sortie, complètement guérie. On l'a appris une semaine après. Frustration. Il y a des gens, ils comprennent, comme quelqu'un a dit à Jésus, écoute, c'est pas besoin que tu te déranges là. Écoute, là, aujourd'hui, ne te dérange pas pour l'imposition des mains. Laissez les chaises tranquilles, là, ce matin, Jésus. Il n'y a pas de problème. Ce matin, on va faire simple. J'ai compris le principe de l'autorité, Seigneur. Hein? Dis seulement une parole et ça va marcher. Alors, ce matin, bien sûr, c'est Claude Payan. Il est là avec sa petite tresse, là. On dirait un gourou. Mais j'en suis pas un. Mais j'aurais voulu qu'il y ait Jésus à Chianos, que les murs y tremblent. Écoute, on peut faire sans les murs qui tremblent si ça marche. Parfois, les gens ils tombent par terre, ils roulent et alléluia, c'est bien aussi. Il y a des moments où il faut aller dans ce sens, mais ils se relèvent, ils sont pires qu'avant, tant qu'ils restent debout. Ce que je veux dire, c'est pas parce que ça bouge extérieurement qu'il y aura le plus de résultats. Est-ce que vous me comprenez? Ce que Dieu veut, c'est de la foi. Il n'a pas dit quand les nuages explosent, quand les murs tremblent, la guérison et la délivrance sont là. Ça peut, mais ne limitons pas le Saint-Esprit à ça. Par contre, nous avons une réalité qu'on peut saisir tous les jours sans les nuages qui explosent au-dessus de nous et les murs qui se mettent à trembler. C'est « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Ça, ça marche tous les jours. On peut rester debout et être guéri. On peut tomber par terre, être guéri. On peut éclater de rire, être guéri. Mais on peut faire tout ça et rester le même. Saül, sous l'onction de l'Esprit, il roule tellement sous l'onction de l'Esprit. Donc, je suis pour ces choses-là, amen. Mais qui se retrouve nu à un moment donné. Vous imaginez s'il avait été secoué par le Saint-Esprit? Bon, il se relève, il veut encore tuer David. Il n'a rien compris, le gars. Le Saint-Esprit sur lui n'a pas pu faire le travail. Alors des fois, on peut faire sans rouler par terre. Peut-être que la prochaine fois, on vous fera rouler par terre. Amen. On peut faire sans ça. Mais prendre Dieu au sérieux avec sa parole. Amen. Il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose qui se règle rapidement, peut-être dans la semaine, peut-être même lundi, ça ne peut pas attendre. Juste levez-vous à votre place. Vous avez besoin d'une guérison physique, d'une délivrance, d'une oppression. Le diable, il travaille beaucoup au niveau de la dépression, de ces choses-là. Des enfants qui sont éloignés du Seigneur et qui vous donnent beaucoup de soucis. Okay, juste levez-vous à votre place. On ne peut rien donner à Dieu. Hein, et on peut juste faire un geste, hein, pour lui dire « Hey, Dieu, je suis là. Et j'ai cru à ce qui est dit ce matin. » Ce qui a été dit.
Je saisis ce matin, Seigneur.
Voilà.
Alléluia. Je